franceinter.fr.
Avenida Valladolid, 42, c'est Benny Maclet.
Bonjour à tous. La France n'est pas le seul pays à vivre au rythme des élections et elle n'est pas non plus la seule à l'orée peut-être d'un bouleversement de son paysage politique. 36 millions d'Espagnols élisent aujourd'hui leurs députés et leurs sénateurs. Et le futur gouvernement sera bien sûr issu de ce vote. 40 ans après la disparition de Franco, le système du bipartisme vit peut-être ses dernières heures. Depuis 4 décennies, en effet, deux formations alternaient aux affaires. Le Parti populaire, le camp conservateur, et le Parti socialiste ouvrier espagnol pour la gauche. Or, la crise économique terrible que vient de subir l'Espagne, ainsi que des scandales de corruption qui éclaboussent tout le monde, bousculent ce mano à mano traditionnel. La situation économique, certes, semble se redresser, mais 4 millions d'Espagnols sont toujours privés d'emploi, et ceux qui retrouvent un travail le font le plus souvent par le biais d'emplois très précaires et sous-payés. Dans ce contexte, des partis neufs sont en train d'éclore. Podemos, à gauche, issu du mouvement des indignés de 2011, et Ciudadanos, le parti des citoyens au centre droit, sans compter des formations régionalistes qui rendent à peu près illisible la future carte politique de l'Espagne. C'est à Valence que nous emmènent Lionel Thompson et Pierre Quintard. C'est un ancien bastion de droite, miné par une bulle immobilière folle, et c'est l'une de ces grandes régions d'Espagne où le désir de changement d'air guidera sans doute ce dimanche la main des électeurs.
Interception, le magazine de la rédaction.
Nous avons des laitues, vous voyez là, les asperges, mais bon, il n'y en a pas maintenant, c'est fini. Des fraises, mais il n'y en a pas, et ça va venir. Parce qu'ici, vous voyez, y a, le climat aide beaucoup. Il y a plusieurs fois, on peut récolter des fraises. Et puis, il y a aussi des fèves, et aussi des pommes de terre. Il y a aussi des, comment ça se dit, des aubergines. Vous voyez là, le premier. Là, il y en a parce que ça dure tout ça, l'été. Et même maintenant, il y en a, on peut les récolter maintenant. Il y en a quelques-unes.
Ça a l'air de bien pousser en tout cas.
Bah oui.
Ils sont beaux ces potagers.
Bah oui.
Comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Concha.
Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? Vous pouvez nous expliquer?
J'étais en train de soigner et de donner à manger aux poules et aux coqs. Il y a aussi des oies, des canards.
Vous en faites quoi, des légumes que vous cultivez ici?
On le consomme nous-mêmes. On ne peut pas les vendre. D'ailleurs, il n'y aurait pas grand-chose à vendre. On est plusieurs dans la parcelle. C'est un groupe. Chacun prend des choses, des salades, des asperges, des fraises surtout pour les enfants. Ils sont contents quand ils viennent. Il y a des fraises.
Vous venez souvent, là, ici, dans ces potagers?
Chaque jour, dans le poulailler. Et de temps en temps dans ma parcelle qui est là. Il ne passe pas un seul jour où je ne vienne pas ici, à Benny Maclet. D'ailleurs, c'est un quartier qui est très bien. Benny Maclet, avant, c'était un village. Et alors, peut-être ça a gardé un peu ça, le sens d'un village. C'est pour ça, peut-être, que s'organise bien entre les riverains.
On va vous laisser vous occuper des poules.
Ça y est, j'ai déjà fini aujourd'hui. Il y a eu 7 œufs. C'est pas mal, hein?
De quoi faire une omelette?
Oui, ils vont la faire là à côté.
L'association des voisins de Benny Maclet n'a pas attendu le mouvement des indignés pour organiser la participation citoyenne et pallier à l'inaction de certains élus locaux. Comme beaucoup d'autres associations de ce genre en Espagne, elle est née sous le franquisme, comme une forme de résistance à la dictature. Elle est restée très active depuis dans ce quartier périphérique de Valence, où la ville et ses barres d'immeubles sans charme ont peu à peu mangé la campagne environnante. L'idée des potagers collectifs est née en 2010. Mais pour l'imposer, l'association a dû se battre pendant 2 ans contre l'ancien propriétaire du terrain. Un promoteur lié à l'une des plus grosses banques espagnoles, BBVA, dont le projet immobilier n'a jamais vu le jour et qui laissait ses anciennes parcelles agricoles à l'abandon. Avec l'aide de la municipalité, qui a promis à la banque d'autres terrains, les habitants ont finalement pu les récupérer pour y développer leur potager participatif que Fermín et Antonio, deux responsables de l'association, nous présentent. Alors sur ces 4000 m² de terrain, maintenant, il y a des potagers qu'on voit là, avec quelques-uns des riverains qui sont là, qui sont en train de s'occuper de leurs parcelles. Combien ils ont fait de parcelles en tout et combien il y a de riverains qui sont sur ces parcelles ?
Son 100 parcelles, approximadamente una media de 3 huertanos y huertanas por parcela.
Nous avons donc actuellement 100 parcelles sur ce terrain de Benimaclet, environ 300 personnes qui les exploitent, parce qu'on compte une moyenne de 3 personnes par parcelle. Il y a beaucoup plus de monde le week-end, c'est un lieu d'attraction, toute la famille vient, on se réunit, on mange la paella, on fait des activités, voilà, c'est vraiment un lieu de loisirs.
Alors c'est un lieu de vie du quartier, c'est un lieu éducatif, c'est un lieu aussi de convivialité et de loisirs. Est-ce que ça a une dimension aussi sociale ? Est-ce que avec la crise, ça aide des gens aussi à avoir des légumes tout simplement pas chers ?
También efectivamente, tanto como vivir de los huertos no.
Il y a effectivement une dimension sociale très importante dans ces huertos, parce que les exploitants de ces parcelles sont absolument de tous horizons. Il y a des travailleurs, des chômeurs, des familles, des collèges, des associations de quartier, etc. Il y a absolument tout le monde de tous les riverains du quartier qui sont présents ici. Donc c'est un lieu de convivialité. Et il y a également une dimension économique, parce que c'est une aide très importante pour le garde-manger. On va dire, on ne peut pas vivre 100% grâce au potager, mais c'est une aide absolument pas négligeable.
Est-ce que dans un quartier comme ici, on ressent encore aujourd'hui les effets de la crise ? Parce qu'on dit que la crise est maintenant derrière, que c'est la reprise économique.
Non. C'est aquí se sigue notando. Yo no sé si en el punto más bajo de ella, como hace un par de años, pero se sigue notando.
Les effets de la crise sont encore omniprésents. On n'est peut-être plus au pic le plus fort de la crise qui était selon lui il y a 2 ans, mais les effets se font toujours ressentir. On trouve très peu d'emplois dans le quartier. Pourtant, Benimaclet, c'est un quartier, on va dire, un petit peu au-dessus de la moyenne en termes d'emplois. Mais que tous les emplois qu'on trouve actuellement sont ce qu'il appelle empleos basuras, des emplois poubelles, des contrats précaires, à peu d'heures pour faire tout et n'importe quoi. Les effets de la crise sont encore tout à fait là.
La crise est encore partout présente en Espagne. À Valence, de nombreux équipements témoignent de la folie des grandeurs qui avait saisi les élus et les promoteurs avant que la bulle immobilière n'éclate. Sylvain Pernet, français qui vit à Valence depuis 7 ans et qui nous accompagne tout au long de ce reportage, nous donne un exemple de ces équipements dont la ville surendettée ne sait maintenant plus trop quoi faire. Alors on est sur la plage de Las Arenas, qui est la plage de Valence. En fait, c'est un peu la promenade dominicale ici, c'est ça. Les gens viennent le dimanche en famille et viennent manger la paella. Mais ceci dit, Valence n'est pas tellement une ville tournée vers la mer, c'était plutôt une ville tournée vers l'intérieur. Et elle a développé un port qui s'est développé notamment au moment où la ville a organisé la Coupe de l'América. Et Sylvain, ce port aujourd'hui, il est un peu symbolique de ces grands projets qui, dans la ville, ont été un peu surdimensionnés.
Tout à fait, oui. Il y a les installations qui sont encore là, mais qui sont vides. On voit bien les bâtiments de la Coupe de l'América, qui sont des espèces de gros blocs, des bâtiments préfabriqués, dont on ne sait pas quoi faire aujourd'hui. Il y a aussi eu ce projet un peu fou d'organiser le Grand Prix d'Europe à Valence alors que la ville n'aurait pas les moyens.
Grand Prix de Formule 1.
Le Grand Prix de Formule 1. Au milieu même des installations du port. Il y a eu 2 éditions qui ont été courues à Valence et après on n'avait plus les moyens de le faire donc ça a été arrêté. Il y a eu également des projets de l'ancienne mairie de vouloir revendre ces installations aux Chinois, de faire un parc d'entreprises, d'autres technologies. Et aujourd'hui tous ces projets sont arrêtés. Et voilà, on ne sait pas encore quoi en faire aujourd'hui.
Para borrar los penales, ¿dónde hay que ir?
On va aller voir Francisco Alvarez. Francisco Alvarez, c'est un économiste, ou plus précisément un analyste financier qui est assez célèbre ici à Valence et même en Espagne. Il est franco-espagnol, il a longtemps travaillé en France. Ici à Valence, il a dirigé la Bourse de Valence pendant 18 ans. Et puis, il a créé une entreprise pour essayer d'introduire de l'éthique dans la finance. Et quand la région ici a changé de couleur politique il y a 4 mois, eh bien, il a été appelé par les nouvelles autorités pour analyser un petit peu l'économie de la région et voir comment il était possible de la réorienter. Combien on vous doit ?
4,65,
d'accord. 4,65 €. Merci. On a fait un petit tour avec Sylvain des endroits un petit peu symboliques de ce qu'était la politique un peu immobilière et de grandes constructions de prestige dont certaines paraissent un peu aujourd'hui, après la crise, surdimensionnées. On est venu justement ici à Valence parce que c'est un exemple de ça, je crois, en Espagne.
Effectivement, malheureusement, je dirais, Valencia est un exemple. Quand cette région a toujours été une des régions les plus brillantes d'un point de vue économique de l'Espagne, surtout par rapport à une infrastructure industrielle, chaussures, carrelage, jouets, meubles, textiles. Et tout cela a presque disparu parce que tout le monde est parti sur le fait que être dans l'immobilier était plus rentable. Un entrepreneur du côté textile, son entreprise avait peut-être 5% des bénéfices par an. Et il avait quelqu'un à côté qui était en train de multiplier son capital par 3 ou 4 chaque année. Donc il disait, mon entreprise, ça ne sert à rien. Ce boom immobilier, effectivement, a fait croire au gouvernement qu'on était vraiment le roi de la terre. Et que donc on pouvait s'endetter tout ce qu'on pouvait. Et voilà, ça donne lieu donc à la Cité des Arts et des Sciences. C'est assez joli, hein. C'est même très joli. Eh bien, nous devons 670 millions d'euros qui vont être payés par peut-être mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou peut-être plus loin. Incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Vous voyez l'aéroport de Castellón, qui a été inauguré là il y a très peu de temps, pendant 2 ans. Mais un aéroport qui se trouve à 36 km de l'aéroport de Valencia. Un train rapide entre Valencia et Castellón aurait parfaitement résolu cela à un coût nettement moins. La personne qui est en prison d'ailleurs actuellement, qui a poussé cet aéroport, qui était donc le président de la province de Castellón, il s'est fait faire une statue, comme à l'époque des Romains, pour mettre sur cet aéroport de façon à que les gens dans les années qui viennent puissent dire, voilà, c'est vraiment des airs de grandeur incroyables.
Cet aéroport, depuis peu, il y a Ryanair qui l'utilise, mais avant ça, il n'y avait aucune compagnie qui atterrissait. Pendant 4 ans, il a été quasiment vide, c'est ça?
Je dirais, pendant à peu près 3 ans, rien, non, les gens allaient se promener sur les pistes, parce que c'est pas très loin de la ville, et puis c'est des grands espaces, et le paysage est assez joli, et donc ça a servi à ça. Et puis effectivement, petit à petit, il y a une entreprise, d'ailleurs française, à qui on a donné une licitation pour pouvoir le gérer. Et puis bon, il semblerait qu'elle s'est débrouillée pour avoir quelques vols. Effectivement, il y en a un ou deux par semaine, je crois. On verra un peu ce que ça devient. Mais d'un point de vue vraiment logistique, on a du mal à comprendre. Mais de toute façon, enfin, la dette, elle est toujours là, hein, de l'aéroport de Castellón. Voilà, elle est ici. 240 millions d'euros. Voilà. Il y a la Cité de la Lumière à Alicante, qu'on a monté pour que les grandes compagnies de cinéma viennent faire des films. Il y en a un d'ailleurs qui a été fait quand il y a eu le tsunami là. C'est le seul qui a été fait. Il est fermé depuis longtemps. On l'a mis aux enchères. Il a été vendu pour 1 euro. Finalement, les enchères ont été défaites parce que c'était vraiment une honte de laisser comme ça. Parce qu'il y a quand même toute une infrastructure, il y a des immeubles, etc. Eh bien, nous avons une dette de 185 millions d'euros. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui me reste par là? Il y a aussi la Feria Valencia.
Un parc des expositions.
Un parc des expositions, mais vraiment fastueux. Quelque chose qui est la plupart de l'année vide. Là, on a un trou à peu près de 200 millions d'euros. Et puis, il y a un stade de football qui est aujourd'hui, si vous passez à côté, une espèce de squelette de Simon. Donc on a un trou là d'une quarantaine de millions aussi.
On a aujourd'hui une situation macroéconomique où le gouvernement dit c'est la reprise, ça y est, l'emploi repart. La situation de l'emploi reste quand même très très mauvaise.
Vous savez, comme d'habitude, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Il est certain que d'un point de vue nombre de personnes qui travaillaient l'année dernière et nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui, il y a un peu plus de personnes qui travaillent. Mais le problème, ce n'est pas simplement le fait qu'un quelqu'un travaille, c'est la qualité du poste de travail, les salaires. Et aujourd'hui même, le gouvernement espagnol, le gouvernement central, vient de publier la moyenne des salaires jusqu'en juin 2015. Nous nous trouvons au niveau de 2007, donc il y a maintenant 8 ans, quand la crise a commencé. Avec une inflation qu'on peut considérer entre 13-14% depuis 2007. Je peux vous dire, par exemple, hier, j'ai eu une réunion avec les deux syndicats principaux. Ils m'ont donné une liste des personnes nouvellement employées qui continuent à aller à la banque d'aliments que ces syndicats ont parce que le salaire qu'ils ont ne leur permet pas de faire face aux dépenses et à se nourrir. Comment peut-on dire qu'on est en train de sortir de la crise ? Lorsque, c'est des chiffres du gouvernement, 2 millions d'enfants sont près de la pauvreté totale en Espagne aujourd'hui. C'est complètement contradictoire. Alors évidemment, c'est vrai que les entreprises exportent un peu plus. C'est vrai, je répète, qu'il y a plus de gens qui travaillent. Mais peut-on vraiment ne pas avoir honte de donner ces chiffres-là sans les expliquer, quand en fait, après, on découvre que ce n'est pas humainement supportable.
Les effets de la crise qui persistent, malgré la reprise de la croissance, expliquent en grande partie le ras-le-bol des Espagnols et leur aspiration au changement. Il y a aussi la corruption qui a atteint des sommets ces dernières années et a éclaboussé aussi bien le Parti populaire à droite que le Parti socialiste à gauche. L'un des plus gros scandales de favoritisme dans les marchés publics, l'affaire Gürtel, a démarré à Valence et a impliqué 74 responsables du PP. Dans la précédente assemblée régionale de Valence, près d'un élu sur cinq a eu affaire à la justice. Mais la préoccupation première des Espagnols reste l'emploi. Donc Luis Carlos, vous êtes au chômage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes retrouvé au chômage et depuis quand ?
Yo empecé a trabajar a bastante joven, combinando el trabajo con los estudios, y he estado trabajando más de 20 años.
Luis Carlos a commencé à travailler très jeune, en combinant à la fois les études et le travail. Son dernier emploi, dans lequel il a passé une vingtaine d'années, était au sein d'une entreprise d'origine familiale, mais qui a très vite grandi, s'est développé pour atteindre un effectif de 40 employés environ, qui est devenu une sorte de PME, une entreprise qui était dédiée au secteur de l'automobile, mais également de la construction et de la santé dans le domaine de la construction, qui malheureusement a fait faillite il y a peu par manque de demande de clients.
Vous faisiez quoi ? Quel était votre travail dans cette entreprise ?
Al principio empecé de administrativo y con la medida que combinaba.
J'ai commencé en exerçant des tâches administratives, de secrétariat, de gestion de comptabilité, et petit à petit, au fur et à mesure qu'il se qualifiait en faisant ses études, il a occupé de plus en plus de responsabilités au sein de l'entreprise. Il a notamment été à la direction des ressources humaines, responsable de qualité au sein de la direction. Voilà, il a grandi au sein de cette entreprise.
Et donc, malgré cette expérience et vos qualifications, vous ne trouvez pas depuis de travail ? Vous avez eu quand même des offres de travail depuis 4 ans ?
Yo he recibido que se puedan contar como ofertas de trabajo a unas cuatro ofertas.
Il a comptabilisé environ quatre offres,
entre las cuales
un solo peu sérieuses, on va dire. Entre ces quatre offres, il a accédé à un entretien d'embauche au terme d'un processus de sélection très particulier, très sélectif, très long. Et même au sein de ces quatre offres, il y en a certaines qui font les lignes d'égalité, parce que pour certains postes, on lui exigeait d'avoir le statut d'auto-entrepreneur, de se déclarer travailleur autonome, ce qui suppose de payer la sécurité sociale, payer ce statut, on paye ce statut ici en Espagne comme en France, et il était plus avantageux de toucher le chômage à ce moment-là pour lui que de se déclarer un travailleur autonome pour un emploi qu'il n'était même pas sûr d'obtenir.
C'est une situation, votre situation de chômeur, qui va influencer votre vote dans les élections qui vont se tenir là.
Para opinar, tengo que hacer una reflexión sobre mis últimos años de vida y evidentemente
oui, effectivement, son vote va changer. Il a besoin de faire une, pour se décider, de faire une analyse sur ces quatre dernières années qui sont passées où il était dans une situation précaire, au chômage. Il a dû changer ses habitudes de vie, ses habitudes de consommation, etc. Donc tout ça va rentrer en compte dans sa réflexion et évidemment ça va influer sur son vote.
Yo estoy seguro que votaré.
Il est sûr qu'il va voter. Il ne sait pas encore pour qui il va voter, mais il est sûr qu'il ne va pas voter pour certains partis. Ça, c'est très clair pour lui.
Próxima parada, Ángel Guimerá. Correspondance amb les línies 3, 5 i 9.
La précarité se traduit aussi par un grand nombre d'expulsions de logements, 95 par jour en moyenne en 2014. Et il n'y a pas de trêve hivernale des expulsions en Espagne. Nous rendons visite à Maria. Après avoir perdu son logement, elle a été relogée par une association dans un appartement vacant qui appartient à une banque.
Hola. Hola.
Hola.
Lionel.
Hola, ¿qué tal? Adelante.
Gracias.
Bueno, la cocina ya la he visto, ya la estoy viendo.
Donc elle nous fait visiter, ouais, ça oui, c'est la cuisine, la cuisine, toute petite cuisine.
Esta es la luz, la cocina. Aquí la despensa, que tiene, tengo aquí mi comida, lógicamente.
Voilà, un petit débarras.
La despensa. Esta es otra habitación. La ropa est logiquement mienne.
Nous sommes devant une petite chambre qui doit faire à 8 mètres carrés à peu près, une chambre individuelle avec un lit individuel, un lit qui a été amené ici par l'association des aides aux expulsés, une petite commode, beaucoup de vêtements également. Et quand quelqu'un se trouve dans le besoin, dans la difficulté, il peut venir se servir, prendre le lit ou les objets dont il a besoin. Et là, c'est sa chambre à elle. Avec un lit, je dirais pas un lit double, c'est plus une place et demie, on va dire. Une chambre un petit peu plus grande qui doit atteindre les 10-12 mètres carrés. Et nous avons... voilà, à côté, un petit cabinet de toilette avec donc des toilettes et un cabinet de douche, un lavabo, le minimum.
Donc
effectivement, elle s'est retrouvée presque du jour au lendemain à la rue parce qu'elle ne pouvait plus faire face, ne pouvait plus payer son logement. Mais les associations ont réagi très vite. Dans quelques jours, elle a réussi à trouver un logement grâce à un ami avant qu'elle ne soit recasée, entre guillemets, dans un autre logement par le PAH.
Ça
fait 2-3 ans environ qu'elle est affiliée, entre guillemets, à cette association qui aide les gens en difficulté concernant le logement. Et depuis, elle n'en est plus partie.
J'avais pas vu votre t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur votre t-shirt?
Es en valenciano. Eso significa stop desahucios.
Stop aux expulsions, en langue valencienne.
Llevo, ¿cuántos años llevo ya? 6 años en el paro.
Ça fait 6 ans qu'elle est au chômage.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail avant?
He hecho muchas cosas. He hecho manipuladora de papel.
Elle a fait plein de petits emplois. Elle a été vendeuse dans les magasins de vêtements. Elle travaille dans les usines de manipulation de papier. Vendeuse dans d'autres boutiques. Voilà, un petit peu de ménage aussi. Voilà.
Esta casa, se supone que es de
cet appartement dans lequel nous nous trouvons est supposé appartenir à une banque qui s'appelle Banca. Mais elle s'est rendue compte il n'y a pas longtemps, par hasard, qu'elle n'appartenait pas directement à Banca, mais à un fonds privé qui a racheté cet appartement.
El banco se ha enterado ya que estoy aquí.
La banque ne savait pas qu'elle occupait cet appartement. Elle s'en est rendue compte il y a peu de temps. Et elle a été citée à comparaître au palais de justice de Mislata, qui est une petite ville à côté de laquelle nous nous trouvons, qui est mitoyenne de Valence. Et voilà, elle va devoir se rendre à cette convocation au début du mois de décembre.
Votre situation vous inspire quel sentiment? Vous en avez assez? Vous êtes en colère ou...
Elle a hâte qu'on soit au 20 décembre, que les élections arrivent, que l'équipe gouvernementale qui est en place dégage et que les choses s'améliorent avec un autre parti politique à la tête du pays. Elle est vraiment très très en colère, ce qu'elle dit qu'elle a encore entendu très récemment aux informations que plus de 100 000 foyers espagnols sont menacés ou ont été expulsés. Le gouvernement a laissé les banques expulser ces foyers-là. Et on parle de familles avec des enfants très jeunes ou avec des personnes âgées à charge, des personnes en difficulté financière, etc. Elle pourrait parler des heures et des heures sur le comportement exécrable, le manque de courage, le comportement totalement lâche de cette équipe gouvernementale, mais elle ne veut pas déblatérer plus longtemps. Mais voilà, on a compris son sentiment.
Le soutien aux expulsés a tenu une place importante dans le mouvement des indignés. Ce mouvement du 15 mai 2011, ou 15M, a ébranlé l'Espagne en profondeur et pourrait encore faire sentir ses effets lors de ces élections. Sylvain, où est-ce que nous nous trouvons là?
Alors, nous sommes vraiment au cœur de la ville de Valence, sur la place de l'Ayuntamiento, la place de la mairie. Et c'est sur cette même place qu'a eu lieu, il y a 4 ans déjà, en 2011, le mouvement des indignés. C'est ici qu'ils se retrouvaient, que les tentes ont été montées. C'était une véritable fourmilière, il y avait des gens partout, des tentes, on campait ici. Voilà, on est au cœur de la ville.
C'était un peu comme à la Puerta del Sol à Madrid. Nous, on a beaucoup parlé de ça en France parce qu'on était un peu focalisé sur Madrid. Mais ici, à Valence, le mouvement des indignés avait un peu son camp de base sur cette place. Alors, nous sommes avec Raoul. Raoul, vous avez participé à ce mouvement des indignés. Vous veniez sur la place à ce moment-là?
Oui, je ne quittais pratiquement pas cette place. Chaque jour, il y avait une action différente. Chaque jour, nous manifestions pour quelque chose de nouveau. C'était de la démocratie directe. Un jour, nous étions solidaires avec les manifestants de Barcelone attaqués par la police. Un autre jour, avec le peuple grec. Nous défendions notre bien-être, c'est-à-dire tous les droits sociaux menacés. Toutes ces manifestations avaient un point commun. Nous voulions un changement profond du système, de la société.
Qu'est-ce qu'il en reste, d'après vous?
C'est une question très difficile.
El 15M, primero, estuvo en las plazas, luego
d'abord,
se
le mouvement des indignés s'est propagé depuis les places des centres-villes. Il s'est répandu comme un Big Bang dans les quartiers, dans les associations de voisinage. Il a donné naissance à tout un tas de collectifs qui luttaient pour la démocratie, l'environnement, contre les expulsions. Ces collectifs ont gagné pratiquement toute la société. Alors oui, il en reste beaucoup de choses. Au niveau politique, à la suite des collectifs, de nouveaux partis comme Podemos sont apparus. Ça a aussi renforcé d'autres partis de gauche. Il y a eu une grande prise de conscience des citoyens. Ce mouvement nous a fait sortir des sentiers battus et il a imposé l'idée de changement.
Et est-ce que vous avez un espoir qu'avec les élections qui arrivent, là, tous ces mouvements vont avoir une traduction politique?
y no.
Oui et non.
Tengo esperanzas en que no se convierta en una salida política en cierto modo.
D'une certaine façon, je n'ai pas envie que ce mouvement soit récupéré et prenne la forme d'un parti politique traditionnel.
Los ciudadanos se autolegislen.
Parce que le mouvement des indignés était un mouvement de démocratie directe, dans lequel les citoyens décidaient par eux-mêmes, en quelque sorte, sans être représentés. Mais d'un autre côté, oui, car il y a des partis qui essayent de reproduire cet esprit de démocratie directe, de faire en sorte que les citoyens décident vraiment. Ils veulent aller vers une société plus communautaire, plus juste, et transposer cet esprit du 15 mai dans les institutions. Alors oui, j'espère que ça donnera des résultats.
Et alors, vous pensez que ceux qui portent le mieux ça, c'est qui? C'est Podemos, il y a Ciudadanos quelque part qui se réclame aussi de cet héritage-là. Qui le porte le mieux, selon vous?
Ciudadanos n'a absolument rien à voir avec le mouvement des indignés. Je suis persuadé qu'aucun des participants à ce mouvement ne va voter pour eux, et même qu'ils les détestent.
Ciudadanos es una alternativa para los jóvenes.
Ciudadanos, c'est pour les jeunes privilégiés. Et le 15 mai n'était certainement pas un mouvement de jeunes privilégiés. C'était un mouvement de toute la jeunesse. Ciudadanos ne fait que récupérer ce mouvement, mais ne dérange pas les puissants. Ils veulent incarner le changement, mais c'est un changement qui ne changerait rien. C'est évident pour la plupart des indignés.
Et la gente que participe en 15 mai le sait.
Podemos, en revanche, reprend en grande partie l'esprit du 15 mai, oui. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a certains partis régionalistes, comme par exemple la CUP en Catalogne, qui incarnent aussi cet esprit. Et d'une certaine façon, toute la gauche, y compris l'aile gauche du Parti Socialiste, est influencée par cet esprit, ou essaye de le récupérer.
Dans les derniers sondages, c'est pourtant bien Ciudadanos, un parti de centre-droit qui n'existait qu'en Catalogne il y a peu, qui fait désormais jeu égal avec le Parti Populaire et les socialistes. Podemos, qu'on croyait aux portes du pouvoir il y a à peine plus d'un an, semble maintenant en retrait. Il n'est pas si facile de capter l'élan du mouvement des indignés dans un parti aux formes traditionnelles, qui a recentré son programme, même s'il reste ancré à gauche, et qui a subi les effets des difficultés de Syriza, son alter ego en Grèce. Nous nous rendons au Parlement de la région de Valence pour recueillir le sentiment d'élus des deux partis émergents, Ciudadanos et Podemos, sur la situation avant ces élections du 20 décembre. On est ici au Parlement régional de la région de Valence. On vous a vu en séance. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Bien sûr, je suis Béatrice Gasco-Verdier, franco-espagnole. Et j'habitais un peu en Italie, en France et en Espagne, donc un mélange.
Et vous êtes donc parlementaire pour Podemos depuis les dernières élections. C'était quand les élections régionales, rappelez-nous?
Le 24 mai dernier.
Alors il y a plusieurs mois, Podemos était très très haut dans les sondages d'opinion. On pensait même qu'il allait peut-être être en position de remporter ces élections générales qui arrivent. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique ça?
Personnellement, je trouve que on a eu peur en Espagne que Podemos soit le nouveau Syriza. Et d'ailleurs, Syriza a payé un peu le prix d'être le premier Podemos européen. Et nous avons eu la sensation que Syriza était tout à fait puni. Cette punition a eu en effet un grand retenti dans l'opinion publique espagnole parce que les médias se sont fait écho de tout ça en disant « bon, c'est très probable que ce ne soit pas aussi possible qu'il ne le présente d'atteindre le pouvoir et de pouvoir surtout réussir à mener à bien toutes les propositions politiques qu'ils font ». En même temps, il y a eu la naissance de Ciudadanos. L'année dernière, il y a eu un PDG d'une des banques qui avait dit « ce serait bien d'avoir un Podemos de droite ». Et comme par hasard, Ciudadanos a commencé à prendre de l'ampleur. C'est un parti aussi qui défend la régénération démocratique, mais nous trouvons que eux, par contre, ils ont un passé parce qu'ils ont quand même été 8 ans dans l'Assemblée, le Parlement catalan, et de notre point de vue, n'ont pas représenté cette régénération démocratique telle qu'ils la prégonnent.
Est-ce que certaines positions de Podemos ont pu aussi effrayer une partie de l'électorat? Il y a eu aussi le discours sur on n'est pas de gauche, pas de droite, l'important c'est les gens d'en haut et les gens d'en bas. Est-ce qu'il y a eu un problème de positionnement? Est-ce qu'il y a eu un discours trop radical ou pas assez de la part de Podemos?
Nous ne disons pas que nous ne sommes pas ni de droite ni de gauche. Ce que nous disons, c'est que cette dichotomie est dépassée aujourd'hui. Les gens de la base sont aujourd'hui vivent bien pire qu'il y a 20 ans. Tous nos droits ont été complètement mis à part. Et il y a un pouvoir économique qui est de plus en plus riche, au même temps que toute une classe moyenne et prolétaire, c'est un mot qu'on n'utilise jamais, mais en français je dirais une classe ouvrière, est non seulement mise de côté, mais surtout a d'énormes difficultés pour vivre. Aujourd'hui, il y a plein de gens, plein de familles qui, avec deux salaires, n'arrivent pas à la fin du mois. C'est ça que nous dénonçons et nous trouvons que la radicalité, c'est précisément faire le contraire. Continuer avec des politiques qui bénéficient toujours les plus gros. Alors, la radicalité, où est-elle? Et surtout, nous ne croyons pas que nos arguments ont été le problème. Ce qui a été le problème, c'est que les médias ont essayé de nous mettre dans le même paquet que le reste. Ils essayent de nous abattre comme ça, avec des arguments qui ne tiennent pas debout. Mais malheureusement, c'est eux qui décident l'agenda politique du pays.
Je suis Caroline Punset, porte-parole du parti Ciudadanos à la Communauté valencienne.
Alors, Ciudadanos est un parti qui était d'abord en Catalogne, mais qui, depuis peu, maintenant, est présent sur toute l'Espagne et en position, peut-être, lors de ces élections générales, d'être la troisième force politique, peut-être, en Espagne. Comment vous expliquez cette émergence d'un seul coup?
Il y a une fatigue terrible des citoyens envers les deux grands partis. Fondamentalement parce qu'ils se sont rendus compte que les deux grands partis actuent comme des structures de pouvoir qui ne veulent pas changer les règles du jeu. Ils veulent seulement s'alterner dans le pouvoir. Les deux partis émergents, les deux nouveaux partis en Espagne qui est maintenant Ciudadanos et Podemos, représentent deux sensibilités radicalement différentes, mais les deux veulent changer les règles du jeu. Ne veulent pas accéder au pouvoir pour accéder. C'est vraiment pour changer les règles de la démocratie et que les gens se sentent représentés.
Sur les questions de libéralisme économique, de politique d'austérité, vous êtes sur quelle position?
Depuis le point de vue social, on est plutôt dans les clivages progressistes du centre-gauche, parce que nous, on croit à l'égalité des gens et on croit à la justice sociale. Et depuis le plan économique, on est plutôt dans les clivages où nous, on pense que l'État et le public doivent avoir sa place, mais pas toute la place. Et on croit à l'économie du marché et à la compétitivité et aux entreprises, et on est plutôt dans ce domaine-là, centre-centre-droite. On n'est pas pour détruire le système, on est pour le réformer. Alors, on n'est pas dans l'aile radicale qui pense qu'il faut tout détruire.
Si aucun parti n'a de majorité absolue, est-ce qu'il est possible qu'il y ait une coalition de Ciudadanos au gouvernement, avec qui? Avec le PP? Avec le PSOE?
Nous, on a toujours dit que Rajoy, qui est le président du PP en Espagne, n'est pas en condition de mener les réformes que demande maintenant l'Espagne, puisqu'il est le principal responsable de ce qui est arrivé dans les 6 dernières années. On veut un nouveau pacte de la transition où toute l'Espagne, toutes les sensibilités puissent se sentir à un moment donné, représenté ou plus ou moins représenté. Et on pense que Ciudadanos est le seul, comme parti de centre, comme parti qui peut parler avec la gauche et la droite, à pouvoir mener une nouvelle transition en Espagne.
À droite, et à gauche, c'est Ciudadanos. Alors nous, on partage le...
C'est pas pour le même étage.
C'est au contraire. À la droite, nous Podemos, à gauche, c'est Ciudadanos. Mais on a les bonnes relations.
Oui, je m'appelle Lola Bagnon, je suis née à Valencia, je suis journaliste. Et il y a moins d'un an que je suis à Podemos.
Alors Podemos est un des deux partis avec Ciudadanos qui représente l'envie de changement un peu des Espagnols et le ras-le-bol un peu par rapport aux deux partis traditionnels, le Parti Socialiste et le Parti Populaire de droite. Comment on pourrait expliquer cette envie de changement? Qu'est-ce qui l'explique principalement?
Les Espagnols ont envie de changement d'abord par la crise, mais pas seulement pour la crise. Ce qu'a fait la crise, c'est de nous révéler les faiblesses de notre système démocratique. Alors c'est pour ça que je pense que les Espagnols ont un désir de changement. Mais les Espagnols ont encore peur. Nous sommes une société encore traditionnelle. Nous sommes un pays qui a une très faible tradition démocratique encore. Et c'est un pays jeune. La crise pour nous a été vraiment un choc à l'Espagne. Mais l'Espagnol a besoin toujours de temps pour réagir. Vous les Français, vous êtes les révolutionnaires toujours dans l'histoire de l'Europe. Mais nous les Espagnols, nous sommes une démocratie encore faible. Et le gouvernement de la droite a fait beaucoup de mal. Parce que a détruit beaucoup des choses que nous avons gagnées dans les premières années de la démocratie, dans les premières années de la Roche. Par exemple, il y a 3 années, le parti de la droite a fait une réforme du travail. Et ça a été un chaos total. Les gens ont perdu beaucoup de salaires, nous avons perdu beaucoup de droits. Et le problème, c'est que maintenant, la pression a été si forte que pour beaucoup des Espagnols, ça est normal. La crise a fait normal des choses qui ne sont pas normales en démocratie. Et ça, c'est aussi une des raisons pour la naissance de Podemos.
C'était « L'Espagne veut changer d'air », un reportage réalisé à Valence par Lionel Thompson et Pierre Quintard. Pour le compléter, nous avons sollicité la participation de Barbara Loyer. Barbara Loyer, vous enseignez ici, à l'Université Paris 8 Saint-Denis, où vous nous recevez. Vous y dirigez l'Institut français de géopolitique et vous êtes une spécialiste de l'Espagne. Alors depuis des semaines, tous les observateurs annoncent des élections les plus incertaines depuis la fin du franquisme. Est-ce que vous partagez ce diagnostic ?
Oui, c'est vrai qu'elles sont incertaines parce qu'il y a à peu près 20% de la population qui n'a pas encore choisi pour qui voter, parce qu'on avait auparavant deux grands partis qui dominaient la scène politique et que ces deux grands partis ont du plomb dans l'aile, notamment le Parti Socialiste qui risque de se faire prendre une part importante des électeurs qui auparavant votaient pour lui. Mais on ne sait pas de quelle manière exactement ces électeurs vont se répartir. Donc on a un résultat qui va être inédit.
L'Espagne, comme la France, vivait sous un régime de bipartisme de fait depuis la fin du franquisme. Est-ce que c'est ce bipartisme même qui risque de s'achever avec ces élections de dimanche ?
Alors c'est vrai que le bipartisme est une composante importante de la vie politique espagnole depuis les années 80. Ça risque de changer et on va passer sans doute de deux grands partis à quatre partis politiques dont les alliances en fait et la capacité de forcer au compromis est encore inconnue.
L'Espagne a vécu une situation de crise économique et sociale extrêmement grave qui a culminé avec un nombre de chômeurs en 2003, 6 millions. En revanche, contrairement à la France, qui souffre aussi d'une situation économique et sociale extrêmement difficile, qui souffre de la même défiance globale vis-à-vis de la classe politique, contrairement à la France, en Espagne, on n'assiste pas à une poussée de l'extrême droite. Comment vous expliquez cette particularité ?
Alors d'abord, la situation économique en Espagne, elle est beaucoup plus grave qu'en France. On est à 50% des jeunes qui sont sans travail, 25% de la population active. Alors pourquoi on n'a pas d'extrême droite ? La question postcoloniale ne se pose pas en Espagne. Or, quand même, le Front National en France a démarré dans le sud. La question postcoloniale a été un des éléments très importants de cette croissance du Front National. Et puis c'est à partir de ce noyau Front National qu'il y a eu des alliances aussi avec la droite traditionnelle, la droite qui était la droite gaulliste, on va dire. Donc, si vous voulez, on a toute une progression qui s'est faite petit à petit dans un contexte international qui complique les choses. On n'a pas ce noyau de départ en Espagne. Déjà, puis c'est vrai que l'extrême gauche en Espagne est plus solide et plus forte que l'extrême gauche française. Le contexte finalement est assez si différent que oui, on peut avoir du point de vue du programme économique, entre le premier programme économique de Podemos et le programme économique du FN en France, c'est un programme économique où on va donner des sous à tout le monde. Donc de ce point de vue-là, il n'est pas franchement différent. Puis il est anti-grande finance, anti-libéralisme, anti-l'Europe libérale. Enfin, on avait tout un tas de discours qui se rejoignent sur le plan sociétal, sur le plan des droits sociaux. Mais le terreau national, historique, il est tout à fait différent. Et puis il y a des personnalités. Pablo Iglesias est une personnalité qui, en Espagne, a pu faire démarrer Podemos avec un petit groupe de gens, finalement, dans un contexte où c'est aussi les plus grosses affaires de corruption en Espagne ont concerné le Parti populaire. Et ce sont quand même des très grosses affaires de corruption qui sont apparues au grand jour au moment où les gens perdaient leur maison. Les gens qui sont dans la pauvreté en Espagne, c'est la classe moyenne. C'est ceux qui ont pensé que, voilà, ils étaient définitivement loin de l'Espagne pauvre des années 60. Il faut voir d'où venaient les Espagnols. Franco, il a essayé l'autarcie, on peut le dire pour les politiciens d'aujourd'hui qui veulent essayer l'autarcie. Ben, il a essayé, les Espagnols, ils mangeaient dans les poubelles. Donc, bien, la génération d'aujourd'hui, elle n'a pas connu le franquisme, elle n'a pas connu tout ça, mais juste ce qu'elle a connu, c'est un peu la fin des illusions.
Merci Barbara Loyer. Nous refermons avec vous cette page consacrée à l'Espagne. Interception est une émission réalisée par Anne Lioro avec le concours de Julie Attacus, Stéphane Combe et Zora Ben Smiley. Mixage Olivier Dupré. À la semaine prochaine.